Chapitre 12. En arrivant rue d'Assas, Colette fut surprise par de nombreux changements. L'appartement était méconnaissable. Il est vrai qu'en cette radieuse matinée d'octobre, la lumière n'avait rien de commun avec le brouillard grisâtre qui avait tout enveloppé l'hiver dernier lorsque Colette était venue. Une agréable odeur de peinture surprenait dès l'entrée. Toutes les portes étaient ouvertes. Des ouvriers allaient d'une pièce à l'autre. Quant à Marie, elle avait remplacé le torchon toujours mouillé dont elle s'entourait la taille par un vrai tablier blanc. « Est-ce que mon père est là ?»« Non, mademoiselle, mais il a promis de rentrer déjeuner. » En visitant l'appartement, Colette comprit ce qui se passait. Son père ne voulait sans doute plus recevoir de malades chez lui. Tous les meubles du cabinet de consultation et du salon d'attente, c'étaient ces deux pièces que les peintres badigeonnaient de couleurs. Des rouleaux de papier tenture étaient posés sur des tréteaux. Colette les regarda. C'était une imitation de toile de Jouy. Comme si elle avait lu une lettre qui ne lui était pas destinée, elle s'éloigna aussitôt et alla s'asseoir dans cette salle à manger où jadis avait régné un si grand désordre et qui aujourd'hui était cirée et fleurie. « Il y a du changement !» dit-elle lorsqu'elle revit Marie. La domestique ne répondit pas. Perdue au milieu de tant d'ordres, elle resta un instant immobile devant le buffet, se demandant dans quel tiroir se trouvait maintenant l'argenterie. Mais Colette ne se laissa pas distraire longtemps par tous ces détails. Déjà, elle songeait à l'entrevue qu'elle aurait dans un instant avec son père. Il était 11h30. Il allait arriver d'un moment à l'autre. Comment allait-il accueillir sa fille ? Croirait-il que cette visite était une réédition de celle faite l'hiver dernier et s'emporterait-il avant que Colette pût ouvrir la bouche ? Par quel moyen lui ferait-elle comprendre tout de suite qu'il n'en était rien ? S'avancerait-elle vers lui avec bonne humeur, en riant même, comme font parfois les gens brouillés qu'une intuition simultanée a averti qu'il ne se trompait pas ? Elle en était là de ses réflexions lorsqu'elle entendit brusquement la voix de son père dans le vestibule, la porte d'entrée étant restée ouverte. Elle se leva. « Père !» s'écria-t-elle. « Comme je suis !» Elle s'arrêta net. Le docteur Salmon n'était pas seul. Un homme d'une cinquantaine d'années l'accompagnait. Il était de grande taille, vêtu avec recherche. On devinait, à sa façon d'attendre que le docteur Salmon lui dît où mettre son chapeau, à ses reculs précipités chaque fois qu'il croyait s'être trompé de direction, qu'il avait une grande considération pour son hôte. « Comment se fait-il que tu sois là, Colette ?»« C'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis que je t'ai vue, » répondit la jeune femme en souriant. « En effet, tu as vu l'appartement ?»« Je l'ai vu et je te félicite. » S'apercevant qu'il n'avait pas présenté son compagnon à sa fille, le docteur Salmon se tourna vers celui-ci. « Cher ami, je voudrais vous présenter à ma fille, mais excusez-moi, je ne me rappelle pas votre nom. C'est ridicule, surtout quand on se connaît depuis des années. Je vieillis, que voulez-vous ? » Henri Massillon, comme le prédicateur, mais je ne suis pas un de ses descendants, malheureusement. « Naturellement. » « Ne vous ai-je pas demandé tout à l'heure comment allait Madame Massillon ?»« Vous me l'avez demandé, docteur, je le reconnais. Aussi, je ne vous tiens grief de rien. » Lorsque Marie vint annoncer que le déjeuner était servi, tout le monde quitta le salon pour se rendre dans la salle à manger. « Je ne me doutais pas, lorsque je vous ai demandé de déjeuner avec moi, que vous feriez la connaissance de ma fille. » À ce moment, le docteur Salmon regarda Colette pour la première fois avec attention, puis, presque aussitôt, il baissa les yeux, parut chercher quelque chose à terre. Enfin, il reprit sa conversation avec M. Massillon. Colette eut alors le loisir de réfléchir sur cette bizarre transformation. Son père n'avait visiblement plus rien de commun avec l'homme qu'elle avait connu. Une nouvelle façon de considérer la vie avait remplacé la première. Un nouvel homme remplaçait le vieil homme. Mais, comme il arrive habituellement dans ce cas, ce n'était pas uniquement parce qu'il s'était aperçu sur le déclin que la vie était belle et qu'il voulait en jouir avant qu'il fût trop tard, qu'il avait changé, mais aussi contre le passé, contre les fautes accumulées depuis la jeunesse. Chacun de ses gestes le disait. Même la voix était autre. L'attention que l'on porte à rester en vie, qui est plus ou moins visible selon la qualité des personnes, émanait à présent du docteur Salmon. On ne voyait que son incapacité absolue de courir un danger, que le sentiment peint sur son visage que l'homme qu'il était n'avait aucun rapport avec celui d'hier, que la vie telle qu'il la concevait aujourd'hui était la seule qu'il eût dû vivre. Et Colette en éprouvait un profond malaise, elle qui faisait justement partie de cette vie condamnée dont son père paraissait avoir honte aujourd'hui. Elle en éprouvait un profond malaise, mais aussi un certain contentement. Le nouvel homme lui faisait moins peur que l'ancien. Elle était comme l'enfant qui souffre plus de voir la peine qu'il fait à ses parents que d'être frappé par eux. Aussi fut-ce sans appréhension qu'aussitôt après le départ de M. Massillon, elle demanda à son père de l'écouter. « Est-ce que tu as le temps, car mon histoire est très compliquée » demanda-t-elle comme si rien ne pressait. « Je peux t'accorder une heure. » « Je suis obligée de remonter assez loin si je veux que tu comprennes pourquoi, aujourd'hui, je reviens habiter chez toi. » Colette parla alors des 5 dernières années de sa vie. Lorsqu'elle dévoila enfin le nom de l'homme qu'elle avait suivi en Suisse, lorsqu'elle fit le récit du crime qu'il avait commis, sans même se donner tellement de mal pour l'excuser, lorsqu'elle raconta son voyage à Nice, l'accueil de sa mère, lorsqu'enfin elle dépeignit les derniers jours qu'elle venait de passer à Paris, son père ne fit chaque fois que hocher la tête. « Eh bien, c'est parfait, » dit-il quand sa fille eut terminé. « Tu vas reprendre ta chambre. Si ce garçon sort un jour de prison et que tu aies à ce moment encore envie de le rejoindre, tu seras entièrement libre de le faire. » Lorsque son père fut sorti, Colette bavarda quelques instants avec Marie, puis elle prit un livre. Elle ne réussit pas à fixer son attention sur ce qu'elle lisait. Ce nouveau changement de ses habitudes lui causait une sensation désagréable. Elle ferma le livre, marcha pendant plusieurs minutes autour de la pièce, se rassit enfin. Mais peu après, elle se leva de nouveau, recommença à aller et venir. Elle pensait à Jacques. Elle avait le sentiment qu'elle avait mal agi vis-à-vis de lui en revenant habiter rue d'Assas, qu'elle n'eût pas dû revoir son père. Longtemps, elle chercha pourquoi ce sentiment l'obsédait. Enfin, elle comprit que c'était parce qu'il existait une trop parfaite identité entre son actuelle façon d'agir et celle qu'elle eût adoptée si Jacques avait définitivement rompu avec elle. Qu'eût-elle fait si Jacques n'avait plus dû jouer aucun rôle dans sa vie ? Comme au matin de ce jour, elle serait retournée rue d'Assas, elle n'aurait pas éprouvé moins de crainte à parler du passé, puisqu'il ne devait plus commander l'avenir, et comme cet après-midi, elle serait restée désœuvrée. Mais quand, vers 5 heures, l'oxygène devint plus subtil, elle recouvra son bon sens. Comment eût pu-elle agir autrement qu'elle avait fait ? Ses sentiments n'avaient rien à voir avec l'organisation matérielle de son existence. Où qu'elle se trouvât, elle aimait Jacques de la même manière. Elle chercha alors d'autres reproches à se faire. Comment se faisait-il qu'elle n'eût pas essayé de revoir Jacques, qu'elle ne se fût pas présentée à la prison, qu'elle n'eût pas demandé qu'on lui permît de voir Jacques? Cette faveur lui aurait peut-être été refusée, mais enfin, elle eut fait tout ce qu'elle pouvait. Elle pensa alors qu'elle avait une excuse. Cette excuse, c'était qu'une telle démarche n'eût pu que déplaire à Jacques, sans parler de monsieur et madame Lézardouin, sinon ne l'y eût-il pas le premier invité, puisqu'il ne lui avait même pas écrit, mais avait-il le droit d'écrire en prison? C'était qu'il tenait, sans moins l'aimer pour cela, à rester seul en présence, à ne se laisser distraire par rien, de manière que son châtiment fût complet. Elle dîna seule. Son père avait téléphoné qu'il ne rentrerait pas. Aussi, dès 9 heures, se trouvait-elle dans sa chambre où elle eut la surprise de voir remiser les fauteuils du salon d'attente où tant de malades inconnus s'étaient assis. Elle ouvrit la fenêtre et se coucha tout de suite. Il y avait 3 jours que Colette était installée chez son père lorsqu'un matin, elle reçut une lettre de M. Lézardouin. Il avait appris qu'elle n'habitait plus chez les Simonnet. Il lui écrivait à tout hasard chez son père. Il lui demandait de passer le voir dès qu'elle pourrait. Rien n'eût pu causer une plus grande joie à Colette. En se rendant rue Oudinot, les pensées les plus absurdes lui vinrent à l'esprit. Jacques avait peut-être été relâché. Monsieur et Madame Lézardoin avaient eu conscience de s'être mal conduits avec elle. Il voulait lui dire qu'il se réjouissait à la pensée qu'elle allait devenir leur belle-fille. Il lui demanderait de se considérer comme chez elle rue Oudinot et de venir quand la fantaisie lui en prendrait. Dès l'entrée, elle fut agréablement impressionnée. Le valet de chambre, dès qu'il la vit, ne put cacher une satisfaction sincère. Sans s'en retourner demander des ordres à son maître, il la conduisit tout de suite dans le petit cabinet de travail situé au fond de l'appartement. Une minute s'était à peine écoulée que M. Lézardoin rejoignait Colette. « Que je suis heureux, Colette, de vous voir !»« Oh, monsieur !» balbutia la jeune femme confuse. « Je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai appris hier que vous aviez quitté les amis à qui je vous avais recommandé, j'ai été pris d'inquiétude. Je ne sais pourquoi, mais je me suis imaginé que vous aviez quelque chose à me reprocher. »« Oh, pas du tout !»« Vous m'aviez dit que vous ne pouviez retourner chez votre père. Je me suis demandé alors où vous avez bien pu chercher asile. J'avais gardé de vous le souvenir d'une personne... un peu, comment dirais-je ? Nerveuse, à juste titre d'ailleurs. Aussi ai-je craint, je ne sais quel coup de tête. Je suis partie, expliqua Colette, parce que, malgré toute la bonté de vos amis, j'ai eu peur de les importuner. Mon père, quoi qu'il eût à me reprocher, ne pouvait pas cependant ne pas me recevoir. Enfin, je suis rassurée. Est-ce que vous êtes contente, au moins ? Colette eut un léger sourire. « Tant que je ne reverrai pas Jacques... »« Oui, je comprends, mais cela, c'est une autre question, Colette. Nous en avons parlé. »« Vous n'avez toujours pas de ces nouvelles ?» Monsieur Lézardoin parut surpris par cette interrogation. « Vous savez bien, voyons, que si j'en avais eu, je vous les aurais communiquées avant de vous parler de quoi que ce soit d'autre. » Cet accueil cordial avait fait tant de bien à Colette que par un désir inconscient de compensation, elle se leva, voulant partir avant qu'on l'y invitât. « Attendez, Madame Lézardoin veut vous voir aussi. Elle va venir tout de suite. » En effet, quelques instants après, Madame Lézardoin entrait à son tour dans le cabinet de travail. « Vous êtes donc là ? » dit-elle en souriant dès qu'elle aperçut Colette. « Vous voyez, madame ?»« Il ne s'est absolument rien passé. » dit M. Lézardoin pour mettre sa femme au courant de la conversation qui avait précédé son arrivée. Il faut que vous veniez nous voir plus souvent, mademoiselle. Vous voyez dans quelle inquiétude vous nous plongez, continua Mme Lézardoin qui avait faim de ne pas entendre la parole rassurante de son mari. Qu'est-ce qui a bien pu les inquiéter à ce point ? Se demanda Colette dès qu'elle se retrouva dans la rue Oudinot. Après tout, se dit-elle un peu plus tard, comme elle n'était pas parvenue à en trouver la raison, « il me porte peut-être un intérêt réel. » Mais cette supposition ne la satisfaisait pas. « Comme Jacques leur est supérieur, » pensa-t-elle. Elle le revit et faillit pleurer. Beaucoup mieux qu'il y avait quelques jours, elle comprenait maintenant qu'il pût l'aimer autant qu'elle l'aimait, sans avoir besoin de le lui dire. À quoi cela servait-il d'écrire ? Comme il serait grand et bon quand il serait libre, quand il serait absous, quand cette obsession du châtiment ne pèserait plus sur son intelligence. Et tout en se rapprochant de la rue d'Assas, Colette entrevoyait pour une époque pas très lointaine un véritable bonheur. Aussi fut-ce sans le moindre sentiment de jalousie qu'elle se rendit, quelques instants plus tard, sur la prière de son père, dans l'ancien salon d'attente, transformé en une ravissante chambre à coucher, où Denise Bénac, qui venait d'arriver, était en train de défaire ses malles. Nous nous voyons toujours dans des circonstances extraordinaires, dit Denise, qui laissait la blouse qu'elle avait revêtue par-dessus sa robe, flotter derrière elle, comme font les femmes qui passent librement d'une occupation à une autre.